La fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la fabrique politique. Alors l'émission est particulière aujourd'hui à double titre. D'abord parce que c'est le numéro 10 et que ça se fête. 10 émissions, 10 invités, 10 histoires de politique publique racontées avec elles et avec eux. Et pour moi c'est un grand plaisir d'être arrivé jusqu'ici. À vrai dire, j'ai pas d'idée précise du nombre de personnes qui nous suivent, mais je remercie du fond du cœur celles et ceux qui écoutent ces quelques phrases. Merci aussi à Émilie qui fait tourner la boutique et qui m'a prêté ce micro, et merci à Chris qui me permet de m'en servir en réalisant les émissions avec sa classe légendaire. L'émission est particulière aussi parce qu'on aborde un sujet aujourd'hui essentiel à mes yeux, la façon dont notre société traite les personnes privées d'un travail de qualité, ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi, les chômeurs, les inactifs ou les précaires. C'est quelques 6 millions d'entre nous, même plus, qui, dans une société où la valeur travail est portée au pinacle, restent en marge de la norme sociale, faute d'un job décent, stable, correctement payé, s'exerçant dans des conditions correctes, sinon confortables. Les sciences humaines décrivent depuis des décennies l'inexorable installation de cette société de travailleurs sans travail, pour reprendre l'expression de la philosophe Hannah Arendt. Une société d'un côté incapable de penser à un contrat social qui ne soit pas purement et simplement dépendant du travail salarié, et de l'autre infoutu de garantir à chacun et chacune la possibilité de vivre d'une activité épanouissante et dont la valeur serait reconnue collectivement. Un sentiment d'impuissance qui ne date pas d'hier, tout comme ne date pas d'hier les discours politiques rodés en la matière, comme le montre cet exemple du général de Gaulle.
Que va être fondé, institué, par coopération entre le patronat et les syndicats, un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum.
Alors bon, l'objet de la fabrique politique, ce n'est pas de changer le cours de l'histoire, ça c'est votre boulot de citoyen, ni même de proposer un cours de philosophie politique, ce qui plairait bien à notre invité, je crois. À notre échelle, on va se contenter de passer au crible un objet de politique publique majeur, l'accueil, le soutien financier et l'accompagnement proposé aux chômeurs et précaires dans notre pays. Et nous allons le faire grâce à notre invité, Pierre-Édouard Magnan, qui est délégué fédéral du Mouvement National des Chômeurs et Précaires, le MNCP. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions.
Avec plaisir.
Je vous propose, pour commencer, comme c'est l'usage dans cette émission, qu'on commence sur du très concret, qu'on se plonge dans la vraie vie. Admettons que je perde mon emploi demain. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Vers qui je me tourne? Qui m'accueille? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, la première chose, c'est d'avoir un dossier complet. Nous sommes en France, un pays de papier, et donc il faut commencer par avoir son dossier avec eux. Ses bulletins de salaire, son attestation Pôle emploi, éventuellement ses contrats de travail si on en avait plusieurs. Et alors si on est doué en informatique, on le fait de manière dématérialisée, c'est-à-dire qu'on scanne tous ses papiers, on envoie tout ça à Pôle emploi pour s'inscrire, on obtient son numéro et on espère que tout va marcher tout seul. Et puis si jamais il y a le moindre souci parce qu'on ne sort pas de 15 ans de CDI, ce qui est évidemment là ne pose pas de difficulté pour calculer l'indemnisation, on peut s'ouvrir un certain nombre de difficultés. Et on va devoir, dans ce cas-là, essayer de régler ça en direct en agence Pôle emploi, ce qui n'est pas toujours simple. Et là, je ne parle donc, vous l'avez compris, que de l'inscription et d'indemnisation, parce que de toute façon, l'accompagnement, lui, vous aurez probablement votre premier rendez-vous. Dans les 4 mois, c'est la loi, et la loi est hélas le plancher minimum, puisqu'on a rarement vu un nouveau chômeur être reçu avant 4 mois par son conseiller Pôle emploi.
D'accord, on va parler du coup de l'accompagnement effectivement juste après. Alors si on revient juste un instant sur le volet indemnisation, est-ce que vous pouvez nous redire très rapidement quels sont, sans rentrer dans les spécificités, mais quels sont grosso modo les droits des demandeurs d'emploi en termes d'indemnisation et puis aussi leurs devoirs, parce que cette question de devoir apparaît souvent sur la place publique.
Tout à fait. Alors les droits, pour avoir droit au chômage, il faut avoir au moins travaillé 4 mois. Et si on a travaillé au moins 24 mois, enfin, on peut avoir jusqu'à 24 mois de droit.
D'accord.
Mais quand on a travaillé que 4 mois, on a 4 mois de droit. J'ai entendu récemment sur une radio quelqu'un qui expliquait que dans ce pays merveilleux qu'est la France, avec 4 mois de travail, on avait 24 mois d'indemnisation.
C'est faux.
Je ne cache pas que ça pourrait faire partie des revendications du MNCP, mais hélas, pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est des droits à concurrence de 24 mois. Et il y a encore aujourd'hui, pour les chômeurs plus âgés, une possibilité jusqu'à 36 mois. Je dis encore aujourd'hui parce que nous sommes en pleine négociation d'une convention, d'une nouvelle convention d'assurance chômage. Oui. Et donc tout ce qu'on dit là va peut-être d'ailleurs être remis en cause dans les mois qui viennent. D'accord. Et grosso modo, le droit à indemnisation. Alors l'indemnisation moyenne en France, c'est 1 000 euros. D'accord. Je trouve que c'est important de rappeler ce chiffre parce que ça évite aussi un certain nombre de fantasmes. Voilà, ça veut dire aussi qu'il y a des émissions qui sont inférieures à ça, puisqu'on parle d'une moyenne. Et donc, on est en dessous du SMIC. Hein. Là aussi, c'est important. Après, c'est une assurance, le chômage. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on perçoit une indemnisation qui est proportionnelle à son salaire, puisque proportionnelle aux cotisations qui y étaient liées. Mmh. Donc, après, évidemment, plus vous avez un salaire important, plus vous cotisez, plus vous touchez d'allocations chômage. Mmh. Et pour faire un petit calcul simple jusqu'à présent, si ça peut toujours aider les gens, en général, au chômage, en moyenne, évidemment, mais on touche grosso modo en net 50% de son brut. D'accord. Je dis ça pour les gens qui voudraient regarder leur bulletin de paye. Voilà, en général, c'est évidemment pas à l'euro près, mais c'est souvent une échelle de grandeur qui fonctionne assez bien et qui permet aux gens d'avoir un peu une idée, parce que c'est aussi un vrai sujet quand on vous retrouve au chômage. Mais comment je vais manger, me loger et vivre le mois qui vient alors que je n'aurai plus de salaire?
Et alors sur la question des devoirs, justement, parce qu'on se dit que bon, ok, voilà, je vais avoir cette indemnisation à hauteur de 50% de mon brut, mais je ne vais pas l'avoir comme ça sans devoir montrer patte blanche d'une certaine manière.
Tout à fait. Alors, d'abord, effectivement, d'être en ordre sur le plan administratif. J'évoquais un certain nombre de difficultés tout à l'heure. Ça n'est pas du tout anodin, hein, parce qu'on a vu un certain nombre de problèmes. Et après, on doit démontrer que l'on recherche activement un emploi. Mmh. C'est le terme du Code du travail. Et alors, par contre, on peut en débattre parce qu'il n'existe aucune définition sérieuse et juridique de ce qu'est une recherche active d'emploi. De dire d'ailleurs qu'il faudrait aussi pouvoir définir ce que c'est qu'une recherche inactive d'emploi, parce que évidemment s'il y en a une active, il devrait y en avoir une inactive, mais c'est effectivement une vraie difficulté parce que c'est d'abord relatif à votre conseiller Pôle emploi, c'est relatif à votre profil, il est évident qu'en fonction de votre background professionnel, vos recherches ne sont pas les mêmes, mais après une recherche active d'emploi, personne n'a jamais été capable de dire, je ne sais pas, c'est X CV par semaine envoyé, c'est X annonces répondues.
Mais il n'y a pas une histoire de ne pas pouvoir refuser plus de 2 annonces, il n'y a pas une histoire comme ça?
Si effectivement, alors, quand vous allez à votre premier rendez-vous, jusqu'à nouvel ordre, hein, on va rédiger ce qu'on appelle le plan personnalisé d'accompagnement vers l'emploi, un sigle de plus, le PPAE, qui fixe les conditions que, théoriquement d'ailleurs, vous acceptez conjointement avec Pôle emploi pour dire, ben voilà, tant qu'on est dans ce cadre-là, c'est un emploi que j'accepterai. Okay. Je dis bien théoriquement parce que ça partirait du principe que le rapport serait équilibré entre Pôle emploi et le chômeur, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque Pôle emploi est la structure qui vous accompagne, qui vous paye et qui vous contrôle. Vous ne pouvez pas être en rapport d'égalité avec quelqu'un qui vous paye et qui vous contrôle. Mm-hmm. Vous n'êtes pas en rapport d'égalité avec votre employeur, c'est même c'est une des définitions du contrat de travail, ça crée un rapport de subordination. Ben dans le chômage, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui est déjà un problème en soi, parce qu'on sait bien que vous pouvez bien accepter de gagner 10 ou 15% de moins, c'est pas tellement, puis en fait, le jour où on se retrouve en face, si ça fait beaucoup, 10 ou 15% de moins, vous pouvez prendre un travail jusqu'à 30 km de chez vous. Alors bon, si vous habitez en centre-ville de Paris, 30 km autour en transport en commun, c'est pas un problème, mais si vous habitez à Saint-Giron ou au fond de la Drôme, pour prendre un département à la mode aujourd'hui, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué.
Donc il y a une subjectivité qui rentre en jeu et qui est plutôt à la main de Pôle emploi qu'à la vôtre finalement.
De fait, puisque les chômeurs sont évidemment, c'est un peu compliqué de se mettre dans une posture, ça je veux pas, ça je refuse, ça je suis d'accord, et évidemment on voit bien que le rapport d'égalité n'existe pas. Et sur la base de ces critères, effectivement, ça définit ce qu'on appelle donc l'offre raisonnable d'emploi. Et effectivement, aujourd'hui, au terme de la loi, c'est une loi qui date de 2008, si vous refusez plus de deux, a priori, ça va passer à un d'ailleurs, avec le nouveau décret sur le contrôle qui vient de passer le 30 décembre dernier. Mais dans le temps, si vous refusiez plus de 2 offres raisonnables d'emploi, alors vous pouviez effectivement subir, à l'époque encore, une suspension de vos allocations, voire en cas de récidive, une radiation pure et simple de Pôle emploi.
Et c'est quoi cette histoire de décret du 30 décembre là?
Le 30 décembre dernier, sans doute en guise d'étrenne pour les demandeurs d'emploi, le gouvernement a sorti, j'allais dire quasiment nuitamment, un décret sur le contrôle des chômeurs. Alors, la petite fleur, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est que quand vous ne viendrez pas sans vous excuser à un rendez-vous, au lieu d'être radié 2 mois, vous serez radié 1 mois. Par contre, si vous ne recherchez pas suffisamment activement un emploi, vous ne serez plus radié 15 jours, mais 1 mois. Donc, il y a eu une harmonisation. Un des vrais soucis, c'est que jusqu'avant, quand vous étiez radié, vos allocations étaient suspendues. Alors pendant 1 mois ou 2 mois, vous n'aviez pas d'allocation, ça vous mettait dans des difficultés absolument invraisemblables, mais c'était décalé dans le temps.
Vous les récupériez quand même.
Vous n'expliquez pas de droit, ouais, exactement. D'accord. Là, aujourd'hui, dans ce nouveau décret, on nous explique très tranquillement qu'on va supprimer les allocations. C'est-à-dire qu'on vous prive de droit, de manière complètement, d'ailleurs, j'ai envie de dire, arbitraire, et tout à fait contestable, d'ailleurs, sur le plan d'une assurance.
Ben oui, parce que vous avez cotisé.
Exactement, mais de toute façon, l'assurance chômage est la plus mauvaise assurance du monde. Moi, j'attends le jour où on va dire aux retraités, écoutez, messieurs, mesdames, on va bien vous verser votre retraite, mais d'abord, vous allez nous promettre de faire du sport, ensuite, vous allez arrêter de fumer, et puis ensuite, il va falloir faire un peu d'engagement bénévole, et puis ensuite, il faudra quand même veiller à manger de manière équilibrée, et puis à toutes ces conditions-là, on vous versera votre retraite. Personne n'oserait dire, enfin, personne jusqu'à présent, d'ailleurs, n'a osé dire ça. Les chômeurs, pareil pour la maladie, d'ailleurs, à la limite, quand vous êtes malade, vous pouvez être contrôlé, mais si vous êtes malade et que votre médecin dit que vous êtes malade, vous touchez vos indemnités journalières, il n'y a pas de débat là-dessus. Le chômage, c'est-à-dire vous avez cotisé, vous avez donc acquis un droit, mais une fois que ce droit, vous en avez besoin, parce que vous avez perdu votre emploi de manière involontaire, c'est là encore la définition du Code du travail, eh bien, dans ce qu'on vous dit, ah oui, alors attention, là, vous y avez droit, mais voilà toutes les conditions que vous devez remplir, et voilà tout, j'allais, si j'osais, le chemin de croix que vous devrez parcourir. Alors, et c'est évidemment ça qui n'est pas acceptable.
C'est pas acceptable. Du côté, revoyons le côté, on espère, un peu plus constructif, c'est-à-dire le volet accompagnement. Si on sort de la question stricte de l'indemnisation, comment ça se passe, Pôle emploi offre des services d'accompagnement. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, quels sont les droits et les devoirs des demandeurs d'emploi sur cette question du service d'accompagnement ?
Alors, il y a trois types d'accompagnement aujourd'hui à Pôle emploi, dans le tronc commun. Après, il y a plein de dispositifs plus spécifiques et adaptés à des profils particuliers, à des métiers particuliers. Je pense par exemple aussi aux dispositifs de création d'entreprise. Mais sinon, il y a trois types d'accompagnement spécifiques. Il y a un accompagnement, j'allais dire, où on considère que les gens sont parfaitement autonomes pour chercher de l'emploi et que donc, en gros, le contact avec Pôle emploi est extrêmement léger, voire distancié. Vous pouvez voir votre conseiller par Internet, etc. Vous avez un accompagnement, j'allais dire, un peu médian. C'est-à-dire, vous me pardonnerez, mais on vous suit un peu, mais pas trop. On a plus besoin quand même de voir ce que vous faites, mais pas tant que ça. Et puis, un accompagnement dit renforcé qui est là pour des gens qui sont en absence forte d'autonomie dans leur recherche d'emploi. Alors, ces trois accompagnements paraissent en soi plutôt fondés, puisqu'on n'est pas tous égaux devant la recherche d'emploi. C'est évidemment pas pareil. D'abord, l'âge, la capacité à maîtriser les outils d'aujourd'hui, le fait qu'on a suivi des formations professionnelles pendant son précédent emploi ou pas, enfin, sa situation familiale, enfin, il y a plein de sujets que. Et donc, en soi, c'est pas forcément ce dispositif ternaire n'est pas forcément à rejeter a priori. Et pour un certain nombre de personnes, quand même, il fonctionne. On a quand même un certificat de l'emploi qui n'est Dieu merci certainement pas à jeter dans son intégralité, loin s'en faut. Le vrai sujet, par contre, c'est que beaucoup de chômeurs, d'abord, ne savent pas pourquoi on les a mis dans un parcours plutôt que dans un autre. C'est-à-dire, c'est souvent une décision un peu unilatérale du conseiller. Et donc, ben, finalement, c'est pas forcément clair, pas forcément compris, et parce que pas forcément expliqué. Et puis surtout, c'est un phénomène de rail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous met dans un type d'accompagnement, grosso modo, vous n'en sortez pas. D'accord. Or, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse y avoir des passerelles. Je dis toujours, vous êtes un jeune cadre de 35 ans, vous avez eu une dizaine d'années de carrière professionnelle assez fluide, vous vous retrouvez au chômage. Votre premier réflexe, les premiers temps, c'est de dire, j'ai mon réseau, je suis parfaitement autonome, je cherche tout seul. Et puis au bout de 6, 7, 8 mois, vous pouvez vous dire, bah, finalement, histoire, je constate que ça ne marche pas, je n'arrive pas, etc. Donc, je pourrais avoir besoin d'aide et de dispositifs. Et donc, bah, peut-être que je voudrais rentrer dans un accompagnement un peu plus, avec plus d'humains et plus de présence. Et bien, ça va être extrêmement compliqué, voire impossible de fait. Ce n'est pas impossible en droit, mais impossible de fait, y compris d'ailleurs du fait du nombre de conseillers Pôle emploi qui rediminue et qui n'est pas à l'échelle aujourd'hui du nombre de demandeurs d'emploi que nous avons.
Et alors, sur ces histoires d'accompagnement, ce qui me semble aussi, Pierre-Edouard, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui contribuent à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je pense aux missions locales pour les jeunes, je pense aux plans locaux pour l'insertion à l'emploi, aux maisons de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce paysage qui a l'air assez diversifié ?
Alors, c'est-à-dire que la face brillante de la médaille, c'est que c'est diversifié et que ça permet de s'adapter à un maximum de publics. La face moins brillante, c'est que ça crée un phénomène de millefeuille. Et avec d'ailleurs l'obsession chez certains du mythique guichet unique qui n'a jamais fonctionné partout où on a voulu le mettre en place. Il est vrai qu'en France, on a un certain nombre de dispositifs qui ont tous montré leur intérêt. Mais alors, d'abord, le défaut souvent, je pense par exemple aux maisons de l'emploi. Il y a une époque, on en avait fait l'alpha et l'oméga. et sans doute non sans raison d'ailleurs. Et puis du jour au lendemain, les politiques publiques ont décidé que les maisons de l'emploi, c'était plus le bon outil, et donc on retire les moyens. Et donc on voit des dispositifs qui effectivement redisparaissent.
Les effet stop and
go. Voilà, exactement. Et ça, c'est un phénomène. Et sur les maisons de l'emploi, pour prendre cet exemple-là, c'est assez phénoménal. Sur les plis, il y a eu une époque où on en a beaucoup créé, il en demeure, et ils ont fait des choses très bien. Ils ont en plus permis aussi d'attirer plein de crédits européens pour permettre d'accompagner des demandeurs d'emploi ou des créateurs d'activités. Et ça, c'était plutôt effectivement extrêmement positif. Alors, quand on vit sur le cas, alors d'abord, elles ont une histoire, j'allais dire, grandiose, et elles ont le mérite d'abord de ne pas se limiter à la recherche d'emploi. Parce que j'étais récemment dans une audition à l'Assemblée nationale et on me réévoquait la question de fusionner Pôle emploi et les missions locales. Et je dis, mais attendez, le problème, c'est que les missions, d'abord, ça pourrait se débattre pourquoi les missions. Parce que si on fusionne les deux, on sait que ça veut dire que Pôle emploi bouffe les missions locales. Ouais, parce que quand on fusionne, en fait, c'en est un qui mange l'autre. Une fusion, c'est toujours ça. Je dis, d'abord, sur la recherche d'emploi, il faudrait en débattre. Mais à la limite, sur l'activité recherche d'emploi, tout peut se débattre. Mais les missions locales ne font pas que de l'accompagnement vers l'emploi. Une dimension sociale, une dimension santé, une dimension logement. Enfin, il y a aussi.
Que Pôle emploi n'a pas vocation à faire.
Que Pôle emploi n'a aucune vocation à faire et est incapable de faire. Mais c'est pas une critique. Il est normal que Pôle emploi soit incapable de faire ça. Ça n'est pas du tout son job. Mais je me méfie toujours parce que, à la fois, on est en France un phénomène de millefeuille qui mériterait d'être simplifié, c'est indéniable. Mais c'est plutôt les dispositifs qu'il faudrait simplifier. Après, si on vire dans l'excès inverse, je le répète, du guichet unique, ça fait 20 ans que quand on veut régler un problème, on m'explique qu'on va faire un guichet unique. Et quand on a dit ça, on a l'impression qu'on a tout réglé.
Oui, c'est une chimère, en fait.
Il n'y aura jamais un endroit qui permettra de répondre à toutes les questions de tous les êtres humains. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais.
Et il ne faut surtout pas le rechercher. Ce qu'il faut, c'est mettre en réseau et en résonance les acteurs qui font.
Exactement. Ce qu'il faut, c'est que quand quelqu'un pousse une porte, quand notamment un chômeur pousse une porte, si ce n'est pas la bonne porte, que ce soit l'avant-dernière porte qu'il pousse, parce que cette porte-là va savoir le renvoyer vers le bon endroit. Qu'on arrête de faire aux gens un nomadisme insupportable où ils doivent raconter leur vie 15 fois. Mais on ne pourra jamais créer cette espèce de lieu mythique où il y aurait tout sur place au même endroit. Ça ne fonctionnera jamais, quand bien même on arriverait à essayer de le créer.
Merci Pierre-Edouard. On va faire une petite pause musicale. On commence aujourd'hui avec Dire Straits. La chanson s'appelle Six Blade Knife. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est la Fabrique Politique qui se penche aujourd'hui sur le service public de l'emploi, l'accompagnement des chômeurs par la puissance publique. Nous sommes en compagnie de Pierre-Édouard Magnan, délégué fédéral du MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Pierre-Édouard, je vous propose maintenant de prendre un peu de recul par rapport au terrain et de s'intéresser à la gouvernance de cet univers. Peut-être on commence par parler de Pôle emploi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire de la fusion entre ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'ANPE et les ACEDIC? Pourquoi on a fait ça et comment ça s'est passé?
Mais écoutez, ça va faire écho à ce que je disais avant la pause musicale. On a décidé que ce serait mieux si tout était géré au même endroit, c'est-à-dire l'accompagnement et l'indemnisation. Mmh. Ça a été une volonté politique absolument forcenée de Nicolas Sarkozy notamment. Et on sait aujourd'hui que ça ne marche pas, puisqu'on a voulu qu'une seule et même structure fasse et l'indemnisation et l'accompagnement. Je mettrais volontiers une troisième branche dedans, qui est la formation. Ça ne marche pas, ça ne marche d'ailleurs tellement pas qu'on est en train, en fait, alors, on n'est pas en train de réinventer la NPE et les ACEDIC, mais on est en train de réinventer des métiers différenciés dans la structure Pôle emploi, parce qu'au départ, du coup, on mélangeait tout le monde. Des anciens des ACEDIC, qui étaient donc très bons sur l'indemnisation, mais qui n'avaient jamais accompagné un demandeur d'emploi, et réciproquement, des anciens de la NPE, qui savaient parfaitement accompagner les chômeurs, mais qui étaient bien incapables de répondre à des questions un petit peu complexes en termes d'indemnisation. Bon, ce qui s'est passé, c'est que dans les agences, finalement, les gens, au moment de la fusion, les gens ont gardé un peu leur histoire personnelle. Et puis, en fait, aujourd'hui, on est en train, finalement, de réinventer des métiers un peu autonomes, parce qu'évidemment, ça n'est pas le même métier. Ouais. Définir l'indemnisation d'une assistante maternelle qui a 4 ou 5 contrats, dont un s'arrête et les 4 autres continuent, et puis, de l'autre côté, accompagner quelqu'un qui veut créer une entreprise, on voit bien que le travail n'est absolument pas le même. Évidemment, alors, on ne reséparera pas les deux, parce que ça n'est pas possible, et puis parce que ça a été fait. Je tiens à dire que tous les rapports d'études qui ont été faits sur la fusion, et par des officines qui ne sont pas vraiment des antennes du MNCP, je parle par exemple du Sénat, de l'Assemblée nationale ou du Conseil économique et social, ont tous dit que ça avait été fait parce que politiquement, on avait décidé qu'il fallait le faire, mais que ça n'avait pas d'intérêt, pas de pertinence, et qu'au fond, ce n'était pas vraiment une réussite. Donc, je tiens à dire que ce n'est pas juste une élucubration du mouvement national.
Donc, maintenant, il faut faire au mieux avec ça, en fait, finalement.
Alors, si on resépare les métiers, à la limite, que différents métiers soient dans un seul établissement public, ça, c'est pas un problème majeur. Mais en fait, on va effectivement se rendre compte. Et je répète, il faudrait même créer sans doute une branche spécifique autour de la formation, qui est un métier à part, l'accompagnement vers la formation, le choix d'un parcours de formation, etc., qui est un métier à part entière. Quand on connaît, on parlait de millefeuille tout à l'heure, le millefeuille qui est la formation en général dans notre pays, ça mériterait sans doute aussi des conseillers spécialisés.
Et c'est un mouvement qui est en cours, ça, l'idée de redistinguer les métiers, ou c'est pas ce qu'on constate?
Oui, c'est en cours. Non, c'est un mouvement qui est en cours, parce que matériellement, il y a un moment, ça n'est pas possible. En plus, on voit bien, en plus, tout se complexifie. Je veux dire, qui fait encore une carrière avec 40 ans de CDI en ayant 2 employeurs? Ça n'existe plus. Quand je parle de ça, j'ai l'impression de parler de la préhistoire. C'est pas si vieux, d'ailleurs, mais enfin, ça paraît la préhistoire. L'indemnisation qui va avec, idem, je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a fait 15 ans de CDI, il peut trouver son indemnisation sur Internet, il va la calculer tout de suite. Mais ça, ça devient aujourd'hui des cas de plus en plus rares. Donc quand vous avez des multi-employeurs, des petits boulots, de la précarité, des métiers de plus en plus spécifiques, l'évolution des métiers dans notre, enfin, dans notre pays, dans le monde entier d'ailleurs, pas dans notre pays, fait que l'accompagnement vers l'emploi et le travail de formation se complexifie d'autant plus, et en conséquence également le métier d'indemnisation.
D'accord. Alors, d'un point de vue gouvernance, qui gouverne Pôle emploi aujourd'hui? Comment se passe son pilotage? Quelle est la place des partenaires sociaux dans l'histoire?
Alors, le pilotage opérationnel appartient à un directeur général.
Bon.
Qui est nommé par le ministre du Travail.
D'accord.
Et il y a un pilotage politique, il y a un conseil d'administration. En fait, comme tout établissement public, vous avez un conseil d'administration et un directeur général. Dans ce conseil d'administration, vous avez trois catégories, si j'ose dire. Vous avez l'État, vous avez le patronat et vous avez les représentants des salariés. En gros, vous avez les trois qui payent, si vous me pardonnez l'expression. Ouais. Sachant qu'il faut savoir qu'historiquement, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait proposé, à l'époque de la fusion, avait proposé aux partenaires sociaux de récupérer Pôle emploi et de le gérer. D'ailleurs, du coup, en fait, finalement, comme se passe la gestion de l'UNEDIC, ce qui est de la convention, qui est gérée de manière paritaire et uniquement paritaire, sans présence de l'État, en tout cas.
Ah, il voulait enlever l'État du conseil d'administration ?
En fait, il voulait fusionner la NPE et la CEDIC et donner Pôle emploi à gérer aux seuls partenaires sociaux.
D'accord.
Qui se sont empressés de refuser. On comprend, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Se sont empressés de refuser. Parce qu'objectivement, gérer l'indemnisation, on gère des gros sous, gérer l'accompagnement et gérer le chômage, c'était aussi, enfin, de la part de Nicolas Sarkozy, c'était assez fin finalement, enfin pas trop parce qu'ils l'ont vu, c'était du coup confier pour une part la responsabilité du chômage aux partenaires sociaux, qui évidemment n'en ont surtout pas voulu. Donc en tout cas, globalement, hein, je ne vais pas le détail de chaque partenaire social, mais en tout cas, ils n'en ont pas voulu. Et donc du coup, on a mis par contre quand même les partenaires sociaux et l'État autour de la table, parce qu'aussi, on a demandé à l'UNEDIC de financer pour partie Pôle emploi. D'ailleurs, je fais une petite incise, mais que j'aime répéter partout. On dit toujours l'assurance chômage est déficitaire. C'est faux. L'assurance chômage n'est pas déficitaire dans notre pays. Il y a plus de cotisations que d'allocations. C'est l'UNEDIC qui est en déficit, et elle est en déficit parce qu'on lui fait payer des choses pour lesquelles elle n'a pas été conçue, et notamment Pôle emploi. Alors, c'est pas d'ailleurs forcément scandaleux que l'UNEDIC finance Pôle emploi, mais il faut pas après venir nous dire qu'à cause des chômeurs, l'UNEDIC est en déficit. Parce que c'est pas vrai, et j'aime à le rappeler, aujourd'hui on pourrait même augmenter les allocations chômage, l'assurance chômage resterait excédentaire. Donc c'est une petite incise, mais j'y viens parce qu'on fait souvent l'assimilation entre la structure UNEDIC et le système d'assurance chômage, et c'est pour le moins abusif.
La partie indemnisation est tout à fait équilibrée, c'est ça que vous dites?
Tout à fait. D'accord. Il y a aujourd'hui plus de cotisations perçues que d'allocations versées. Donc, c'est une assurance qui fonctionne.
Et donc, si on prend l'exemple du projet de réforme actuel dont vous parliez il y a quelques instants, et les risques de voir les droits, y compris en indemnisation des chômeurs, diminuer, ça vous paraît un non-sens de ce point de vue-là, j'imagine?
C'est effectivement un non-sens. C'est-à-dire qu'on veut faire payer aux chômeurs directement une partie de Pôle emploi ou une partie de la dette publique, puisqu'il faut savoir que l'UNEDIC emprunte de l'argent sur les marchés avec les garanties de l'État. Faire de la grosse cuisine économique, mais l'UNEDIC émet des obligations pour emprunter de l'argent sur les marchés, pour se financer, parce qu'en demeurant, oui, l'UNEDIC en tant que structure est en déficit, et donc derrière, c'est assimilé à la dette de l'État. Et donc, comme on décide de faire payer la dette à ceux qui n'en sont pas la cause, en l'occurrence les chômeurs, eh ben, effectivement, on veut effectivement restreindre leurs droits, sous le fallacieux discours, d'ailleurs, que plus on leur met de coups de trique sur la tête, plus ils vont retrouver du boulot.
Et c'est ça la philosophie du projet de réforme actuel. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, là, où est-ce qu'on en est ?
Pour l'instant, on a du mal à y voir très clair. Il y a un gros combat sur le sujet de la taxation des contrats courts, qui est un combat donc, entre le patronat et les partenaires sociaux. Pour l'instant, l'État a envoyé une feuille de route, mais l'État laisse les partenaires sociaux discuter. Et donc, il y a un grand débat autour des contrats courts, puisqu'effectivement, en gros, comment les employeurs qui consomment le plus d'allocations chômage parce qu'ils créent le plus de contrats précaires et donc de gens qui viennent travailler qui retournent au chômage. Comment ce sont ces gens-là qui finalement cotisent le plus à l'UNEDIC plutôt que des employeurs qui eux développent du CDI et donc finalement consomment moins d'assurance chômage par le biais de salariés qu'ils renvoient régulièrement à Pôle emploi. Alors évidemment, il y a le sujet d'avoir des cotisations différentielles. Évidemment, le patronat n'en veut pas. Et donc, je n'ai pas tout le détail en tête, mais nous sortent des usines à gaz qui ne fonctionneront jamais. Après, le discours général, on est tous dans cette perpétuelle. Il faudrait inciter les chômeurs à trouver du travail.
Donc des devoirs, etc.
Ben oui, comme si d'ailleurs. Alors, je dis toujours, on pourra toujours me trouver un chômeur qui dit « moi je suis très content d'être chômeur et je ne cherche pas de boulot ». Toujours, on pourra aussi me trouver un vieil oncle d'Amérique qui revient milliardaire 50 ans après ou d'une vieille grand-mère qui a fumé toute sa vie et qui est morte à 100 ans. dans tous les cas, ça ne constitue pas la majorité du genre, loin s'en faut. Il suffit d'avoir poussé la porte une fois d'une association de chômeurs, d'un chantier d'insertion ou que sais-je, pour savoir que l'unique préoccupation de tous les gens que l'on rencontre, c'est « trouvez-moi du boulot ». Y compris des fois quand ils sont eux-mêmes dans une situation, par exemple, de santé ou de situation de logement, qui les rend absolument, qui les met dans l'impossibilité immédiate de chercher du travail sérieusement. Mais il reste que, vous évoquiez la valeur travail érigée en totem absolu dans votre éditorial, c'est exactement ça. Et donc on est perpétuellement dans « il faut inciter les chômeurs à trouver du travail ». Entre parenthèses, on les prend donc vraiment pour des gamins, il y a un phénomène d'infantilisation. Alors je dirais d'infantilisation, et même moi je retrouve dans les discours qu'on a sur les chômeurs, vous savez, ces discours colonialistes qu'il y avait dans les livres d'école de la fin du 19e, où il fallait guider les colonisés d'une main sévère mais juste, parce que c'était des grands enfants. Et bien aujourd'hui, ce discours colonialiste du 19e, finalement, revient de manière un peu moins caricaturale, mais quand même, vis-à-vis des chômeurs, qui sont donc, alors au pire, qui sont des fraudeurs et des feignants, et au mieux, qui sont des gens qui sont pas vraiment responsables et à qui il faut donner un peu de coup de trique et qu'il faut jouer de la carotte et du bâton pour les ramener dans le droit chemin du travail, puisque évidemment, et là je reviens à cette vieille doctrine chrétienne, l'oisiveté mère de tous les vices, comme si les chômeurs étaient oisifs et comme si quand on touchait le RSA et qu'on savait pas comment on allait bouffer à la fin de la semaine, on avait le temps d'être oisif et de prendre du bon temps.
Si on sort maintenant, je reste sur les questions de gouvernance, si on sort du champ des partenaires sociaux et de l'État et qu'on part sur les collectivités locales, pardon, est-ce que ces collectivités locales, départements, villes, etc., ont un rôle dans le service public de l'emploi et elles servent à quoi ?
Alors aujourd'hui, sur Pôle emploi proprement dit, non.
Rien.
Okay. Alors, beaucoup de collectivités ont évidemment, alors beaucoup d'ailleurs peut-être trop de collectivités, mais c'est un autre débat. Ou se sont adjugés des compétences en matière d'emploi. Alors après, on pourrait en débattre parce que est-ce qu'à un moment là aussi ça ne renforce pas le millefeuille ? Est-ce que toutes les communes de France, encore que ça commence à diminuer faute de moyens, mais est-ce que toutes les communes de France ont une légitimité à avoir un point d'accueil emploi quand à côté le département met des dispositifs ? Bon, lui, le département, c'est-à-dire tout le secteur social, notamment avec tout le dispositif du RSA. Qui sont donc aussi des gens au chômage, il a une légitimité, et puis derrière la région qui vient sur le terrain parce qu'elle a la formation. On pourrait sans doute là aussi s'interroger sur ce sujet-là. Mais concrètement, par rapport à Pôle emploi, les collectivités aujourd'hui n'interviennent pas. Il y a au CA un représentant de l'association des régions de France de mémoire, mais vous voyez que c'est quand même très modeste comme implication, même s'il y a eu, et ça revient régulièrement à la question de la régionalisation de Pôle emploi.
Ah oui, et ça, on est où ? C'est plus à l'heure du jour ?
Pour l'instant, ça n'est pas le jour. Et d'accord. J'ai envie de dire, le gouvernement actuel, je ne pense pas qu'il va faire ça.
Non, c'est pas ça.
Monsieur Macron est le premier vrai colbertiste que nous avons depuis sans doute 50 ans. C'est-à-dire que c'est un libéral étatiste.
Ouais.
Et c'est assez étonnant parce qu'on parle beaucoup de Colbert dans notre pays, mais en fait, on n'avait pas eu un vrai colbertiste depuis très longtemps. Je ne parle pas de jugement de valeur. C'est vraiment une constatation. C'est-à-dire un libéral étatiste. Mais du coup, il est plutôt dans une démarche de faire par l'État, considérant que si l'État fait, ce sera forcément très bien, plutôt que dans une démarche de décentralisation. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses rapports pour le moins conflictuels avec les collectivités locales, même si en ce moment, il est dans une période de marathon calinothérapeutique, important. Mais c'est effectivement, c'est encore ressorti du bois, je crois, en 2015-2016.
Mais c'est plus.
Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais abouti. D'accord. Après, ça ne veut pas dire que les collectivités sont absentes du champ. Les régions sur la formation, évidemment, sont un acteur majeur. Je parlais des départements, avec notamment les allocataires du RSA, c'est évidemment très important. Et puis, on évoquait les missions locales. Beaucoup sont encore, de fait, des structures dépendantes de la commune.
Donc,
évidemment que les collectivités sont encore très, très investies là-dedans. Mais là aussi, c'est pas tant de diminuer le nombre de structures que de recréer un peu de cohérence politique, parce que des fois, du coup, d'un département à l'autre, on a connu des situations où il y avait des allocataires du RSA, finalement, ils regrettaient de pas habiter dans le département d'à côté parce qu'ils auraient eu droit à tel dispositif alors qu'ils n'y avaient pas droit dans le département où ils étaient. Ça pose quand même à un moment un sujet, mais du coup, c'est pas le nombre de structures, c'est le problème de la cohérence politique qui se pose.
Merci, on va glisser un nouveau break musical, on se retrouve juste après, on écoute Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. Possibly say, I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried.
Sur Radio Campus sur 90.8 et c'est de la Fabrique politique. Nous recevons Pierre-Édouard Magnan, délégué fédéral du MNCP, pour essayer de décrypter avec lui le fonctionnement des services de soutien proposés aux demandeurs d'emploi. Pierre-Édouard, j'en viens à un sujet qui, je sais, vous tient à cœur. Quelle place ont aujourd'hui les chômeurs et les précaires dans l'élaboration, dans la mise en œuvre, dans le suivi des politiques qui les concernent directement ?
Pour faire un mot, je vais dire aucune. Après, mon mot est un peu caricatural. Globalement, quand même, les chômeurs sont la catégorie socio-professionnelle, chômeurs et les précaires en général d'ailleurs, quand je parle des chômeurs, je ne parle pas que des inscrits à Pôle emploi, ont une place qui est tout à fait négligeable, et à chaque fois qu'ils arrivent à gratter un strapontin, c'est quasiment une lutte dantesque. Alors, quand j'ai dit ça, par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 20 ans, il y a sans doute un certain nombre de choses qui fonctionnent un peu mieux, évidemment.
Et il y a des instances où ils peuvent être représentés. Quoi.
Alors, à Pôle emploi, par exemple, il y a, puisqu'on parlait de Pôle emploi, il y a les comités départementaux de liaison où siègent les syndicats de salariés, les organisations de chômeurs et Pôle emploi. Okay. Et il y a à côté de cela un comité national de liaison qui a la même fonction et qui est présidé par le directeur général.
Mais ce n'est pas le conseil d'administration, c'est deux choses différentes.
Ce n'est pas le conseil d'administration, les chômeurs ne siègent pas au conseil d'administration. Alors, juridiquement parlant, ils siègent, puisqu'il y a une... Juridiquement parlant, les chômeurs en France, dans le Code du travail, sont des travailleurs privés d'emploi. C'est la définition juridique. Chômeur, ça n'existe pas dans le Code du travail. Et donc, techniquement, je veux dire, plutôt pas techniquement, juridiquement, les syndicats de salariés sont évidemment censés représenter les chômeurs. D'accord. Sauf que... Ils ne le font pas, et je leur fais même pas le dire, ils ne peuvent pas le faire. Le propre du syndicalisme, c'est de défendre des salariés en activité et en tant que branche professionnelle. Parce que le chômage n'est pas encore une branche professionnelle. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est encore pas le cas. Et donc, ils sont incapables, de fait, leur structure ne leur permet pas d'organiser, de porter une parole collective des chômeurs. Et nous, on l'a vu avec des associations qui sont chez nous et qui sont issues de très gros plans sociaux. On peut parler des anciens de Boulinex, des anciens de McCormick, des anciens de Metal Europe, pour parler de très grandes entreprises qui font des plans sociaux. Le jour où le plan social est terminé, les syndicats deviennent complètement inopérants. Et aujourd'hui, en plus, quand vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas vous identifier spécifiquement à la branche professionnelle dans laquelle vous étiez quand vous étiez salarié avant.
Et vous ne pouvez pas vous tourner vers un syndicat classique, ce n'est pas un réflexe que...
Mais c'est en fait très compliqué parce que la structure syndicale n'est pas faite pour ça. Alors, au début, les syndicats n'ont jamais voulu l'entendre. Aujourd'hui, les choses bougent un peu quand même.
Donc, ils vous font une place d'une certaine manière ?
Alors... J'irais plutôt qu'on les pousse un peu pour les forcer à nous en faire une petite de temps en temps. Parce que je ne pourrais pas encore parler de la bonne volonté des syndicats français sur le sujet. Mais donc, nous ne sommes pas au Conseil d'administration de Pôle emploi. Alors, juridiquement, oui, puisque les syndicats de salariés y siègent, on l'évoquait tout à l'heure, mais dans les faits, nous n'y sommes pas. Nous, ça fait partie de nos revendications, en disant d'ailleurs qu'à la limite, on se fiche de savoir si on y est avec une voix exécutive ou une voix consultative. Le fait est qu'il nous paraît absolument inimaginable dans ce pays que Pôle emploi soit le seul établissement public dont les usagers ne sont pas représentés au Conseil d'administration. Je disais, pour avoir fréquenté le milieu de l'enseignement supérieur, on n'imaginerait pas deux secondes une université dans laquelle il n'y aurait pas d'étudiants au conseil d'administration. Et bien, à Pôle emploi, vous n'avez pas de chômeurs au conseil d'administration.
Ou les hôpitaux, des représentants des patients, etc.
Exactement. C'est pas si vieux, mais il y a eu beaucoup de choses de fait, notamment effectivement sur la participation des patients dans les hôpitaux. Bon, il y a des choses qui se passent effectivement au niveau de la précarité, je pense notamment à tous les centres d'hébergement et au conseil de vie sociale. C'est aussi des choses qui se font. Il y a alors. Avec de manière très très inégale ce qui se peut se faire au niveau notamment au niveau du RSA. Alors là, c'est très inégal d'un département à l'autre, parce qu'en fait, pareil, les départements ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Vous avez des départements où il y a eu la mise en place de groupes de travail un peu institués avec justement des représentants des précaires pour travailler sur les plans départementaux d'insertion, pour travailler sur la politique d'insertion, et là c'est effectivement très intéressant. Par contre, vous avez des départements qui se sont contentés de la stricte application de la loi et qui se sont contentés du coup de tirer au sort de précaires pour les faire siéger en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire le lieu où on décide ou non de sanctionner les allocataires du RSA. Imaginez un peu en termes d'éducation populaire, j'ai envie de dire, et en termes de bon sens, de demander aux allocataires du RSA de sanctionner aux allocataires du RSA. C'est absolument calamiteux. Voilà, là, on a des choses très bien d'un département à l'autre. Ben, je veux dire, en Isère, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites. En Hérault, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites. En Haute-Garonne, il y a des choses très intéressantes qui sont faites. Mais là encore, on revient, il y a une grande inégalité parce que ça dépend du département.
Mais alors, c'est quoi les obstacles à cette participation ? C'est l'État qui bloque, c'est les partenaires sociaux, vous en parliez à l'instant. Et qu'est-ce qui fait que cette participation n'arrive pas à franchir un certain seuil, finalement ?
Alors, il y a un problème de fond, mais qui, à mon avis, est insoluble. C'est la question de la représentativité. En France, on a un fonctionnement de représentativité. D'ailleurs, on ne condamne pas a priori. Et par exemple, les syndicats de salariés, ben, ils ont des élections, il y a des pourcentages, et on sait qui représente qui.
D'ailleurs, ils ont une légitimité là-dessus.
Voilà, il y a des syndicats représentatifs et des syndicats qui ne le sont pas. Puis, des syndicats qui le sont dans certaines branches et pas dans d'autres, et d'autres qui le sont partout. Bon. Le patronat, c'est pareil. Alors après, on peut discuter des critères, on peut discuter de plein de choses, mais de fait, il y a un système qui fonctionne. L'État, les députés, on peut en discuter, mais ils ont gagné des élections. Après, on peut discuter du mode de scrutin, on peut discuter de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, mais ils sont élus dans un cadre légal et légitime institué. Les précaires, il n'y a aucune représentativité. nous, on dit toujours que nous représentons des chômeurs et des précaires, mais on ne s'est jamais prétendu comme organisation représentative des chômeurs et des précaires. Parce que, d'abord, parce qu'on n'en sait rien. Je le dis avec un peu d'humour, mais je veux dire, on représente les gens qui viennent nous voir, on fait notre travail à partir de ce qui nous remonte du terrain, on fait notre travail aussi parce que nous sommes une organisation de chômeurs et précaires, c'est-à-dire que nous avons des chômeurs et des précaires dans nos associations, en situation de responsabilité, dans notre conseil de gestion national. Mais cela dit, on ne pourrait pas se targuer d'être représentatif de l'ensemble des chômeurs et des précaires. Et donc, comme il y a ce problème de représentativité, il y a toujours cette question, ah bah oui, mais pourquoi vous et pas les autres ? Et puis, comme les autres, on ne sait pas les dire, bah, du coup, ça finit par faire personne. Bon. Après, il y a aussi l'éternelle question qui, moi, m'a toujours fait bondir, c'est que dès qu'on fait venir des précaires dans une instance, il y a tout de suite l'argument de dire « Ah oui, mais alors, attention, faut pas qu'ils restent trop longtemps, faut que ça tourne, parce que sinon, ils vont s'institutionnaliser. »
Ils seront, général, ils seront plus assez précaires.
Ça, exactement. Et en général, ceux qui disent ça sont députés depuis 40 ans ou ont fonctionnaire depuis 30. Et sont ceux qu'on croise dans toutes les réunions et dans toutes les instances dans que nous pouvons fréquenter. Et ce qui, donc, m'a toujours fait effectivement bondir, parce que oui, effectivement, si on veut une représentation des précaires, effectivement, il faut garantir le fait que ce soit effectivement des chômeurs et des précaires qui puissent y venir. Mais il faut aussi garantir une certaine continuité. Si on fait venir tout le temps, pour être sûr que la personne soit bien, bien, bien précaire, si on en change à chaque réunion, bah, comme ça, on est sûr que leur parole ne servira à rien. Parce que, ça ne... parce que du coup, ils n'auront pas le temps d'arriver, de découvrir ce dont on discute, qu'ils seront déjà en train de repartir. Puis la troisième chose, ça fait d'ailleurs un écho de ce qui se passe au niveau du mouvement actuel des Gilets jaunes, entre parenthèses, c'est la question de la structuration. Si on veut une représentation digne de ce nom des chômeurs et des précaires, il faut leur donner les moyens de se constituer en collectif, de se structurer et de construire, parce que aussi, une des sujets, c'est de construire une parole collective. Moi, je dis souvent, une de nos missions, c'est de transformer de la colère et de la souffrance, toutes deux d'ailleurs légitimes, quand les gens poussent nos portes, en revendications collectives.
Et là, vous en avez des moyens, je pense au MSTP, où vous citiez tout à l'heure assez. Alors, vous en avez des moyens de vous structurer la puissance publique vous aide mais,
alors, on en a, il ne cesse hélas de baisser sur le plan financier. Nous, on en a. Le MNCP, en plus, a fait le choix depuis plus de 20 ans d'aller chercher des fonds publics et donc a fait ce choix. Et donc, nous avons effectivement un certain nombre de moyens. Il ne cesse, cela dit, de baisser. Hein, en 10 ans, nos moyens ont été divisés par deux. Alors, c'est vrai, comme le chômage a beaucoup baissé et que la précarité a beaucoup reculé, ça paraîtra logique à tout le monde. Mais donc c'est évidemment un réel problème, surtout qu'en plus, c'est évidemment le public le plus difficile à organiser. Parce que quand vous êtes au chômage, on sait bien que quand vous êtes en précarité, vous êtes dans une situation de grande vulnérabilité, d'isolement, et donc encore moins spontanément réceptif à la dimension collective. Surtout que ça fait 30 ans qu'on explique à la France entière que le collectif sert à rien et que tout ce qui marche, c'est le réseau et l'individu brillant. Donc en plus, il y a un effet global qui se traduit aussi dans les syndicats, dans les partis politiques, dans toutes les autres structures. On voit bien le recul de l'engagement collectif. L'engagement collectif au sens politique. Il y a toujours plein de gens dans les associations dans notre pays. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais on voit bien la dimension a changé. Je prends souvent comme exemple, il y a 40 ans, dans les banques alimentaires, on distribuait déjà des colis à des gens qui avaient faim, mais on réfléchissait aussi à la manière un jour de ne plus exister en tant que banque alimentaire. Aujourd'hui, vous allez dans la même banque alimentaire, vous trouverez toujours des gens plein de bonnes intentions. Et vraiment, c'est formidable ce qu'ils font, distribuer des colis alimentaires à des gens qui ont faim. Mais plus personne ne se pose la question, dans les bénévoles qui sont sur le terrain, de savoir comment on pourrait faire pour que ça change. Et ça, c'est très, très révélateur d'une société qui a évolué, à mon avis, pas dans le bon sens, mais ça, après, c'est un jugement de valeur, donc je le prends pour moi. Mais en tout cas, c'est une évolution forte de la société. Et je répète, on voit l'écho des Gilets jaunes avec tout ce que ces gens peuvent évoquer. À la fois, je sors des problèmes, je crie des choses, et puis derrière, je refuse de me structurer parce que je vais me faire bouffer par le système, et en même temps, je suis obligé de me structurer parce que sinon, le système ne m'entend pas. Et on voit bien cette tension très forte qui se traduit aujourd'hui, mais sur ce plan-là aussi, on en parle moins dans les médias parce que c'est moins télégénique, mais c'est aussi très révélateur de l'état de notre société.
Et alors, vous, en tant que mouvement fédéral qui rassemble, qui mobilise des associations, des chômeurs, des précaires, quand même, si vous deviez donner, pour illustrer les leviers d'action qui sont les vôtres, vous disiez que vous étiez il y a peu de temps à l'Assemblée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes quand même des interlocuteurs reçus par le ministère, par les parlementaires, ça veut dire que vous avez quand même une capacité, j'allais dire, de plaidoyer auprès d'eux ?
Alors oui, parce que quand même depuis de nombreuses années, et puis aussi parce que, comme toutes les organisations, on travaille aussi en réseau avec d'autres organisations qui sont sur des secteurs, j'allais dire, cousins des nôtres, ça nous permet effectivement d'avoir acquis un minimum de notoriété, et globalement, quand notamment au niveau du Parlement, on souhaite parler des chômeurs, bah finalement, comme ils ne sont pas capables évidemment d'aller rechercher dans la rue, donc ça paraît délicat, et donc effectivement, ils font appel à nous. Mais ça reste encore très timoré, très limité. Et à titre d'exemple, malgré nos relances et nos sollicitations nombreuses, la ministre du Travail n'a pas daigné nous recevoir depuis mai 2017. Je pense que nous sommes les chômeurs, c'est la seule catégorie qui dépend de son ministère, parce qu'elle est ministre du Travail, elle est aussi ministre des chômeurs, hein, de fait, et elle n'a toujours pas reçu, malgré de nombreuses demandes, les organisations de chômeurs depuis qu'elle est arrivée en mai 2017.
Ça, c'est inédit, ses prédécesseurs l'avaient fait ?
Alors, c'est hélas pas tout à fait inédit, pour être très clair. Alors, Muriel El Khomri nous avait reçus assez régulièrement avec les organisations de chômeurs. François Rebsamen, malgré son court passage, avait eu le temps de nous recevoir. Michel Sapin ne nous avait jamais reçus et on avait...
Donc c'est très dépendant des personnes,
ça. Ouais. C'est très dépendant des personnes, mais je veux dire, là encore, est-ce que le ministre des Transports imaginerait une seule seconde de ne pas recevoir les syndicats de cheminots? Et d'ailleurs, le ministre du Travail, évidemment, n'imagine pas une seule seconde de ne pas recevoir le patronat et les salariés, et c'est bien normal, mais elle oublie quand même que une des principales catégories socio-professionnelles de ce pays aujourd'hui sont les chômeurs et précaires, qui dépendent de son ministère, et ils ne sont toujours pas reçus, et alors qu'on discute de ce que va être le revenu des chômeurs à l'horizon de l'été prochain, les organisations de chômeurs ne sont ni consultées, ni entendues, ni sollicitées. Et c'est quand même, c'est plus qu'un scandale, c'est une aberration.
Et alors, on arrive à, presque au terme de cet entretien. Peut-être pour donner une perspective, sur les mois qui viennent, finalement, ce qui va vous occuper, vous l'évoquiez à l'instant, c'est cette réforme en cours. Si vous deviez donner peut-être le point qui vous semble clé dans les revendications que portent les chômeurs et précaires, ce serait lequel ?
Alors, d'abord, à minima, aucun recul de droit. Ouais. Vous allez dire que certains diront que ça manque d'ambition, mais on est dans un tel contexte que déjà le minimum, c'est aucun recul de droit. C'est-à-dire qu'on ne diminue pas encore le montant de l'indemnisation, la durée de l'indemnisation, le calcul de l'indemnisation. On ne diminue pas aussi les capacités que les gens peuvent encore avoir de cumuler du chômage et de l'emploi. Parce que si on fait ça de toute façon, en même temps, je ne suis pas sûr que ça se fera, parce que c'est encore le meilleur soutien à la précarité voulu par beaucoup de grands employeurs. Mais cela dit, dans le contexte actuel, qu'on ne touche pas à ça, qu'on ne réduise pas d'ailleurs plus largement aussi l'ensemble des allocations. En tout cas, voilà, aucun recul de droit pour les chômeurs. Nous, c'est évidemment là-dessus qu'on va se battre. Après, évidemment, on va se battre là-dessus parce qu'on est des gens rationnels. Notre souhait, ce serait même de revaloriser les droits. Il est inadmissible que dans notre pays, des gens puissent encore mourir de faim. C'est une porte ouverte. Mais moi, je ne suis pas président de la République, donc j'ai le droit de le répéter parce que je n'ai pas les moyens de le faire tout seul. Mais, il n'est pas tolérable que dans notre pays, on continue d'agir là-dessus. Et surtout, que le discours politique en général arrête de stigmatiser, comme il le fait systématiquement, les chômeurs. Et là, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, parce que je pourrais remonter à une sacrée quantité de présidents de la République et de ministres sur les discours stigmatisants à l'égard des chômeurs, qui ne font d'ailleurs que diviser la société. Et j'ai la faiblesse de penser que la mission essentielle d'un élu, c'est plutôt de rassembler la société plutôt que de la diviser. Et globalement, quand on voit le discours sur les chômeurs, on est hélas plutôt dans le contraire. Et c'est bien dommage, bien regrettable. Et ça finira par coûter très cher à tout le monde, d'ailleurs.
Merci beaucoup Pierre-Édouard Magnan, c'est la fin de cet entretien, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, merci à vous.
Je vous en prie, et puis pour nous chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz, juste après un dernier morceau de musique, un petit retour aux sources avec Joe Dassin, qu'on écoute tout de suite.
Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. c'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Vous êtes toujours sur Radio Campus dans la Fabrique Politique. C'est l'heure de la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Alors, je vous emmène aujourd'hui au Brésil, toujours autour de ces questions de prise en charge des demandeurs d'emploi. L'article est issu d'un quotidien de Sao Paulo et il s'intitule « Au Brésil, vendre dans la rue pour survivre ». En fait, bon, je vais recommencer, je crois que je me suis mélangé les pages. Ah oui, c'est comme ça. Je recommence. Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est la Fabrique Politique et c'est l'heure de la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Cette fois, je vous emmène au Brésil, toujours à propos de cette question de la prise en charge et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc au Brésil, un article d'un quotidien de Sao Paulo qui s'appelle « Au Brésil, vendre dans la rue pour survivre » et qui a été publié en février 2018. Les stands ambulants de nourriture sont toujours plus nombreux au Brésil. Le développement de cette activité non déclarée participe à la baisse officielle du chômage. Plus d'un demi-million de Brésiliens contribuent aujourd'hui à réduire le taux de chômage dans le pays en vendant de la nourriture dans les rues. De fait, le nombre de personnes qui gagnent leur vie en exploitant un commerce alimentaire ambulant a considérablement augmenté en un an, quasiment multiplié par deux entre 2016 et 2017. En 2015, alors que cette activité commençait à apparaître comme une solution à la crise, on dénombrait quelques 100 000 marchands ambulants, plus de 500 000 maintenant. La tendance à la baisse du chômage enregistrée ces derniers mois s'explique essentiellement par la multiplication de ces emplois informels. Les vendeurs ambulants de produits alimentaires constituaient 11% environ des emplois informels créés à l'automne 2017. Ce phénomène de société a été identifié par le groupe bancaire Crédit Suisse dans un rapport qui examine un certain nombre de scénarios pour le Brésil. L'étude précise que la forte augmentation de la population de marchands ambulants a été constatée dès le troisième trimestre 2016 dans toutes les régions. On peut croiser ces travailleurs partout, ils vendent des sandwichs sur la plage ou des friandises à la sortie des universités, installent à l'heure du déjeuner des glacières, des marmites sur le trottoir, dans les quartiers d'affaires. Plutôt le matin, ils montent leur stand de café au lait dans les endroits les plus fréquentés. Si ces activités connaissent une forte croissance, c'est qu'elles ne nécessitent pratiquement aucune formation, explique l'économiste Sergio Firpo, professeur à l'Institut de formation au commerce de l'Université de Sao Paulo. De fait, nul besoin de diplôme pour préparer un repas et le vendre aussitôt. La demande croissante de denrées alimentaires meilleur marché peut également avoir renforcé cette tendance, si l'on en croit César Azerado, chargé d'études sur le travail et les revenus. Pour le consommateur, c'est moins cher que d'aller au restaurant, et comme la crise affecte presque tout le monde, la vente de plats dans la rue est véritablement devenue un secteur porteur. Côté vendeur, le profil le plus répandu est celui du travailleur indépendant. Parmi les 500 000 vendeurs ambulants de nourriture recensés, 415 000 travaillaient à leur propre compte. Et ces vendeurs rémunèrent parfois des personnes pour les aider. Ces assistants, eux, non déclarés, étaient au nombre de 40 000 à l'automne 2017. C'est pour nourrir sa famille que Daniel Silva, 30 ans par exemple, a installé en 2016 son stand pour vendre du tapioca à proximité d'une station de métro de Sao Paulo. « Je venais de quitter mon job dans un restaurant, je suis devenu vendeur ambulant par nécessité », raconte-t-il. Il explique avoir trouvé ainsi une qualité de vie, une routine plus souple, avec la garantie de ne pas perdre l'argent investi dans ses produits. Le chercheur Simar Azeredo regrette toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une activité volontairement choisie par les Brésiliens, mais plutôt d'une forme de survie. Dans un pays comme le nôtre, aux inégalités aussi grandes et avec un aussi faible taux de scolarisation, rares sont ceux qui ont réellement fait le choix de cette activité. La situation révèle davantage un manque d'opportunités à cause de la crise que nous traversons. Si vous proposez un emploi avec un contrat de travail à ces personnes, bien sûr, elles l'accepteront. Thiago Xavier, analyste du marché du travail auprès du cabinet de conseil Tendancia, constate les problèmes posés par ce travail informel, comme les revenus inférieurs et l'absence d'avantages sociaux. Les travailleurs de ce secteur sont les plus vulnérables, leurs revenus sont imprévisibles, ils ne bénéficient d'aucune protection sociale ni d'assurance chômage, alors que pourtant ils comptent dans les chiffres du chômage, dans la baisse de ces chiffres, et ils ne bénéficient non plus d'aucune prime comme la prime de Noël. Par ailleurs, les bousculades, les risques d'inspection par les autorités, les menaces d'autres vendeurs ambulants créent un climat d'insécurité, comme l'explique Natalia Santana, 30 ans, qui a commencé à vendre des croquettes de poulet préparées par sa mère. Elle raconte « Il m'arrivait d'en vendre 30 en une heure et demie, j'avais besoin de cet argent pour payer mes études, et il m'en restait un peu pour le téléphone mobile par exemple. Mais la pression était terrible. Le patron du bar en face voulait que je ferme mon stand, ou bien que je lui remette la moitié de mon chiffre d'affaires. » Natalia a fini par laisser tomber son activité l'année dernière, lorsqu'elle a vu sa demande chuter tout à coup. Quelques mois plus tard, elle a fini par trouver un emploi déclaré cette fois comme serveuse dans un restaurant. Voilà, c'était la Fabrique politique consacrée aujourd'hui à la question de l'accompagnement, de l'accueil, de l'accompagnement, de l'indemnisation des personnes demandeurs d'emploi. Je remercie encore infiniment Pierre-Édouard Magnan du Mouvement national des chômeurs et précaires de nous avoir accompagnés et expliqué tout ça. Je vous rappelle que vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus et je vous dis à très bientôt.